France Musique. C'est l'été sur France Musique. Femme pionnière, Elsa Fattorino.
A woman must have money and a room of her own.
Et c'est cette nature qui m'a beaucoup porté des choses.
J'aime dire que je suis compositeur au sens de métier.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver au micro de France Musique et je vais vous parler aujourd'hui de trois compositrices qui ont vécu chacune à leur manière une expérience ultime avec la musique. On démarre avec la compositrice néerlandaise Henriette Boelsmans.
Thank you.
Boris Hochscheid au violoncelle et Franz von Hout au piano dans la sonate pour violoncelle et piano d'Henriette Bosmans. Henriette Bosmans, donc, née en 1895 à Amsterdam, au tournant du XXe siècle. Sur la photo qu'on voit d'elle, le plus souvent, ses cheveux, très noirs, sont noués dans un chignon lâche. Le regard est noir aussi, le visage doux. On ne pourrait pas lui donner d'âge, c'est une figure intemporelle. La photo a été prise en 1917, on le sait, le modèle a 22 ans, ce que ne dit pas cette photo. Elle porte un vêtement clair, recouvert d'un foulard de soie. Elle ne sourit pas ou peu. Sur d'autres photos, prises à un âge plus mature, elle aura aussi cet air-là, le regard légèrement par en dessous et ce sourire à peine esquissé. On ne pourrait dire quelle émotion la traverse à cet instant précis. Henriette Bosmans est pianiste. Elle a étudié auprès de sa mère, professeure au conservatoire d'Amsterdam. Elle mènera d'ailleurs une brillante carrière de soliste, jouant avec les plus grands chefs. Concilier sa vie de pianiste et de compositrice ne sera d'ailleurs pas une mince affaire. Mais revenons à ce visage. Puisqu'on ne peut pas la faire parler, elle, essayons de faire parler cette photo prise par un certain Jacob Merkelbach, maître dans l'art du portrait qui a eu aussi dans son objectif une certaine Mata Hari. Ce regard donc qui aura plus tard la détermination et l'assurance de celles qui ont traversé dignement les soubresauts de l'existence. Je pense par exemple à l'époque où elle sera persécutée par les nazis, que sa musique sera interdite dès 1942, qu'elle continuera à la pratiquer clandestinement dans des soirées noires. Je pense aussi à ce violoniste Francis Koen dont elle tombe amoureuse mais qui mourra brutalement l'année qui suit leur fiançailles. Alors pendant 10 ans, silence, plus de composition. Là, on distingue au fond de la pupille un léger voile de mélancolie, peut-être lié à ce chagrin précoce d'un père parti trop tôt, à l'âge d'un an. Un père qui était violoncelle solo de l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam et qui a créé en son temps la sonate pour violoncelle et piano de Grieg aux côtés du compositeur. Le violoncelle, Henriette, lui a offert ses plus belles pages. C'est aussi l'instrument de Frida Belinfante avec qui elle entretiendra une liaison pendant plusieurs années. C'est pour elle qu'elle compose son deuxième concerto pour violoncelle créé en 1924. Wilhelm Pieper est une figure essentielle pour notre héroïne. Elle suit avec lui des cours de composition et bascule dans la modernité. Autre figure marquante, Noémie Perugia avec qui elle forme un duo à la fin de sa vie. Henriette compose des mélodies sur de la poésie française. Elle met en musique Éluard et Paul Fort. Vous reconnaîtrez la complainte du petit cheval blanc, des vers chers aussi à Georges Brassens.
Je guerre, il huit devant. Il est mort sans voir le beau temps qu'il avait donc du courage. Il est mort sans voir le
La soprano Julia Bronckhorst et le pianiste Martin Hillenius interprétaient deux mélodies d'Henriette Bosmans, Aurore et la complainte du petit cheval blanc.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fattorino.
Près d'un millier de musiciennes ont composé des œuvres entre 1789 et 1900. Nous allons à présent nous attarder sur l'une d'entre elles, la marquise Hélène de Montgeroux. Elle suscite de plus en plus d'intérêt depuis quelques années, sa musique est pourtant restée longtemps inaccessible car tout simplement elle n'était pas éditée. Et pourtant, son œuvre pour piano anticipe Chopin, Schubert, Schumann et Mendelssohn. Elle chante tout simplement. Son amie la peintre Elisabeth Vigée-Lebrun disait qu'elle faisait parler les touches. La légende raconte que la marquise Hélène de Montgeroux, improvisatrice hors pair incarcérée à la conciergerie pendant la Révolution après que son mari a été sauvagement assassiné, aurait improvisé sur la Marseillaise devant le comité de salut public et mue aux larmes. C'est ainsi qu'on lui aurait épargné la guillotine. Et on est même allé jusqu'à lui confier une classe de piano d'homme dans le tout premier conservatoire de Paris en 1795.
Thank you.
Nous écoutions Edna Stern dans la sonate numéro 9 d'Hélène de Montgeroux. Edna Stern qui a réalisé un travail remarquable sur cette compositrice et a contribué à sa redécouverte. Mais qui était donc la marquise de Montgeroux? Une pianiste et compositrice qui a vécu entre 1764 et 1836 et qui, avant la Révolution, a fait connaître son talent dans les salons majestueux du château de Montgeroux en région parisienne. En tant qu'aristocrate, les concerts publics étaient proscrits. Elle joue avec le célèbre violoniste Viotti, se lie d'amitié avec Germaine de Staël et après la Révolution, elle ose publier sous son nom ses trois premières sonates, à l'instar de l'écrivaine. Elle compose surtout une œuvre monumentale, un cours complet pour l'enseignement du pianoforte en trois volumes publié en 1816 qui comporte, tenez-vous bien, 972 exercices et 114 études progressives. Une œuvre absolument visionnaire. Précurseur du romantisme, Hélène de Montgeroux compose, ornemente, fait chanter le piano à la façon du bel canto.
Thank you.
Nous écoutions le pianiste François Frédéric Guy dans les études numéro 62 et numéro 111 d'Hélène de Mongeroux, une compositrice qui, je le disais, anticipait Schubert et Chopin. Mais elle a également contribué à faire redécouvrir la musique de Bach. On écoute son étude numéro 19, preuve qu'elle a fréquenté le cantor de Leipzig, car cette page est bâtie sur le modèle du premier prélude du clavier bien tempéré. Un prélude de facture baroque, imprégné du style Mongeroux, cela donne ça. Nous écoutions l'étude numéro 19 d'Hélène de Mongeroux par la pianiste Edna Stern. J'ai parlé de la vie publique d'Hélène de Mongeroux, mais pas encore de sa vie sentimentale. Et croyez-moi, elle est tout aussi palpitante. Nous en étions restés à la mort du marquis. Après la Révolution, elle met un enfant au monde, se remarie avec un certain monsieur Is, en divorce, s'éprend du baron de Trémont, à qui elle écrit des lettres ardentes, avant de se marier pour la troisième fois avec un général de l'Empire de 19 ans de moins qu'elle, qui en a 56. Mais il meurt prématurément d'une chute de cheval. La voilà donc veuve à nouveau. Après 1812, il semblerait qu'elle arrête la composition. Mais qu'à cela ne tienne, son cours complet deviendra une référence pour des générations de pianistes avant de tomber dans l'oubli.
C'est l'été sur France Musique. Elsa Fotorino.
Quand on parle de musique aux confins de la vie, on pense bien sûr à Lili Boulanger, qui au cours de sa brève existence, puisqu'elle est morte à seulement 24 ans, a su trouver dans l'urgence de la maladie son langage propre, accéder tout de suite au génie. Il y a dans sa musique une puissance d'évocation absolument hors norme. Et puisque nous parlons aujourd'hui d'épreuve de l'ultime, nous écouterons alors son pied Yesu, sa dernière œuvre qu'elle a dictée à sa sœur Nadia sur son lit de mort. Une pièce dépouillée, dont se dégage un climat de paix et de sérénité.
Thank you.
Nadia Boulanger était avec l'orchestre de la BBC et la contralto Bernadette Grévy dans le pied Yessou de Lily Boulanger. Nadia Boulanger, sœur aînée de Lily qui a sans relâche contribué tout au long de sa vie à faire connaître la musique de sa sœur. Remontons dans le temps, nous sommes en 1913 à Rome et Lily est la première femme à remporter le très prestigieux prix de Rome. Elle a 20 ans, c'est la première femme à partir pour la Villa Médicis, glissons-nous dans ses valises qui s'ouvrent. À Rome, donc, au sommet de la colline du Pincio, sur un jardin merveilleux, orné de bassins et fontaines, de pins séculaires, d'acanthes en fleurs, de buis d'où s'échappe le bruissement des cigales. Sur la nostalgie de ces jardins de la Villa Médicis, Lily Boulanger a su trouver le génie des sons. Je vous propose d'écouter deux magnifiques pages pour piano, trop peu jouées hélas, très libres, raffinées comme ces jardins romains, tendres et nostalgiques, brumeuses comme la ville de Rome au sommet du Parnasse, claires comme un ciel de mai. Tout de suite, d'un vieux jardin et d'un jardin clair sous les doigts de la pianiste Annelise Gastaldi.
Thank you.
D'un vieux jardin et d'un jardin clair de Lily Boulanger, interprétée par la pianiste Anne-Lise Gastaldi. Elle a écrit ces pages alors qu'elle était pensionnaire à la Villa Médicis, après avoir obtenu le prix de Rome l'année précédente. Lily Boulanger, dont la courte vie a été marquée par la douleur et la maladie, savait recevoir la beauté qui passe. J'ai envie à présent de vous faire écouter deux œuvres, d'un soir triste et d'un matin de printemps, deux œuvres comme les deux faces d'une même médaille, l'âme de la compositrice dont la joie se pare toujours de gravité et vice-versa. Ces deux œuvres, nimbées d'une harmonie commune, partagent également un même thème mélodique. Nous les écoutons dans une récente version du trio Helios, et c'est une bonne nouvelle de voir la jeune génération s'emparer de ce répertoire.
Thank you.
Le trio Hélios, interprété d'Un soir triste et d'Un matin de printemps de Lili Boulanger, ce sont les deux dernières œuvres qu'elle a composées sans l'aide de sa sœur aînée Nadia, puisque très faible physiquement, son talent a dévoré ses dernières forces physiques. Mais jusqu'au bout, elle aura été traversée par cette urgence d'écrire de la musique. Nadia écrira En elle était vraiment toute la beauté de la vie, toute la force et toute la faiblesse. C'est sur ces mots que s'achève Femme pionnière. Un grand merci à Dorothée Goll à la production, Félix Levaché à la réalisation et Cédric Châtelus à la technique. Je vous souhaite à présent une très belle journée à l'écoute de France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.